Bonjour, nous sommes le lundi 20 janvier, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris, 14h, c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et oui, nous sommes toujours en 2020 et la relève, c'est toujours 30 minutes avec un créateur dont on parle aujourd'hui et dont on parlera demain. Aujourd'hui, comme assez souvent la relève, on retourne au théâtre parce qu'on aime ça. Bonjour Charles Morillon. Vous aimez ça le théâtre ?
Bah oui, parce que j'en fais.
On ne sait jamais, ça, vous pourriez être contraint d'en faire. On peut vous voir actuellement et jusqu'à la fin du mois, le 28 janvier. Alors vous allez préciser les jours parce que ça, j'ai pas bien compris. Sur la scène du théâtre de Belleville, rue du Faubourg du Temple, dans Pièce en plastique, une pièce de Marius von Mayenburg, mise en scène par Adrien Popineau. Alors c'est quel jour ? C'est le dimanche ?
Alors le dimanche à 17h30 et les lundis et mardis à 21h15.
Voilà, donc vous avez trois occasions d'y aller.
Six, du coup.
Ah oui, puisqu'il y a encore deux semaines.
Voilà.
C'est exact. Ouf, j'ai gagné. Quand on rentre dans la petite salle de ce théâtre, le théâtre de Belleville, donc vous êtes déjà sur scène avec les autres acteurs et visiblement la soirée a été compliquée. Ça sent le lendemain de fête.
Oui, parce que... Alors, je ne sais pas si on devrait
raconter... Il ne faut pas spoiler, mais en gros, expliquer, donner envie.
L'idée, c'est que...
On va déjà décrire cette scène. Il y a des gens qui sont couchés. Certains n'ont pas l'air en grande forme.
Voilà, pas en très grande forme. Un peu... On ne sait pas trop ce que c'est, s'ils dorment, s'ils sont anesthésiés, s'ils sont, on ne sait pas trop dans quel état ils sont. Puis tout à coup, ils se réveillent et puis ils se disent...
On pourrait même croire qu'ils sont tous morts.
Ou qu'ils sont... On pourrait croire qu'ils sont morts, voilà. Et donc, ils se relèvent et ils se disent, bon, eh bien, on va raconter cette histoire en s'adressant au début directement au public. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment dans le ici et maintenant. Voilà.
C'est un dispositif qu'on voit plus souvent qu'avant, en tout cas au théâtre maintenant. C'est difficile pour un acteur d'être là sur scène, de voir les gens qui arrivent, qui vous regardent. C'est quand même bien de sentir ce regard.
Alors, moi, j'ai déjà joué dans des pièces où on était déjà sur scène éveillé. Ça peut être un peu plus stressant parce qu'on voit les gens. Sauf que là, comme on est endormi...
Vous avez les yeux fermés, vous ne voyez rien.
Pour tout vous dire, le jour de la première, j'ai failli m'endormir. C'est-à-dire que j'ai attendu tellement longtemps que j'étais très décontracté. Et au contraire, ça m'a aidé parce que quand je me suis réveillé, j'ai dit bon, moi, c'est bien. Voilà, en fait, j'avais vraiment eu le temps de me calmer. Ce qu'on ne fait pas forcément habituellement, parce que quand on attend derrière les coulisses, enfin dans les coulisses, dans les loges, et ben, des fois, on s'active un peu trop parce qu'il y a le stress, évidemment, de la première ou de la représentation, tout simplement.
Vous connaissiez déjà le travail de Marius von Mayenburg, j'essaie de bien dire son nom.
Mayenburg. Oui, alors, oui, parce que, bon, d'abord, moi, j'ai vécu très longtemps en Allemagne. Et puis, Marius von Mayenburg a été connu très, très jeune. Et il n'est pas vieux, il est de 72, donc il va avoir 48 ans cette année. Puisqu'il a écrit, je ne sais plus à quel âge, mais je crois 26 ans, Visage de feu, qui a été publié à l'Arche, qui a été un carton à l'époque.
Et moi, en Allemagne ou en France aussi ?
Alors, en France, donc à l'Arche, oui, en France.
Ça a été un carton en France ou en Allemagne ?
Alors, je crois les deux. En tout cas, moi, je ne suis pas parisien. Et j'ai commencé le théâtre dans un conservatoire de région à Nantes. Et si ma mémoire est bonne, c'est un des premiers textes sur lesquels j'ai travaillé quand j'avais 18 ans. Donc, c'est à peu près hier, mais... non, mais bon, voilà. Et donc, ça veut dire que ça fait un moment qu'il est connu. Et très vite, il s'est rapproché de la Schaubühne, qui est dirigée par Thomas Ostermeier depuis une vingtaine d'années. Et il a été auteur associé à ce théâtre, ce qu'on appelle Hausautor, avant de devenir même metteur en scène associé, puisque maintenant il met en scène lui-même ses pièces.
Alors là, on est à Berlin, à la Schaubühne.
On est à Berlin, et la pièce en plastique, c'est lui-même qui a mis en scène. Mais d'ailleurs, je crois que maintenant...
Vous l'avez vu en Allemagne ?
Malheureusement, non.
Et par rapport au reste de son travail, ça ressemble à ce qu'il fait d'habitude ou pas ?
Oui. Oui, après, j'ai l'impression... Alors moi, je fais pas partie de ces gens qui ont tout lu de tous les auteurs et qui ont tout ça en tête.
Mais... Et ici, on ne joue pas de question pour un champion, donc c'est pas grave.
Hein. Voilà, mais dans le souvenir que j'ai l'impression que c'est une écriture qui lui ressemble avec des thèmes qui l'accompagnent. C'est-à-dire que quand il écrit Visage de feu, c'est aussi une histoire de famille, mais on a l'impression qu'il s'identifie plus au grand frère. Puisque dans mon souvenir, il y a un grand frère, il y a un frère et une... Un fils et une fille, le fils étant l'aîné, avec des parents, et on voit que la famille ne fonctionne pas du tout. Et puis après, petit à petit, il va commencer à traiter des sujets. Alors, j'ai plus le titre, enfin, je remets plus les titres avec
c'est
les
pas
histoires.
Très grave, c'est pas très, très grave.
Voilà, bon, bref.
Moi, je connais pas du tout cet auteur, donc c'est pour ça que c'est drôle de voir si c'était un texte particulier de lui ou si c'était.
ce qu'il fait d'habitude. Disons que ce côté, ce qu'en France on pourrait interpréter comme quelque chose comme du nihilisme, un truc très noir. Ça y est chez Mayenburg. Après, moi, je trouve que ça très drôle et je pense que c'est aussi l'humour allemand.
Eh ben, c'est très marrant parce que moi, quand j'ai vu la pièce, j'ai pas du tout trouvé que c'était allemand. Je trouvais ça très français. Je savais pas du tout qu'il y avait. Alors, vous voyez, c'est très marrant quand on ne sait pas, on s'en rend pas compte. C'est un texte très satirique sur un couple de la classe moyenne supérieure intellectuelle qui est dans des contradictions, mais on pourrait voir ça, il pourrait être parisien.
Oui, alors quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, ça m'a fait penser au chien de Navarre. J'ai trouvé ça très laudateur parce que, bon, si on a ce niveau-là, c'est très bien, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que ça pourrait être ce type de choses qu'il ferait. Après, ce qui donne aussi cette impression-là au public, c'est que Mayenburg lui-même, dans le préambule de sa pièce, il y a une note d'intention dans laquelle il stipule bien qu'il ne faut pas hésiter à changer le nom des rues, le nom des endroits. C'est pour ça, normalement, dans la pièce en allemand, si ma mémoire est bonne, c'est le directeur de la Sparkasse que nous, on avait remplacé par la Société Générale. Puis, l'actualité faisant, un jour, je me suis dit, tiens, on va parler de Carlos Ghosn. Il y a plein de petites choses comme ça, donc évidemment on n'est pas à Berlin, on est à Paris. L'acteur qui jouait mon rôle s'appelait Sébastien Schwartz, donc dans le livre de l'Arche c'est marqué Sébastien Schwartz, mais mon collègue dit bah voilà, c'est pas Oulupa, c'est Charles Morillon. Des petites choses comme ça qui font que les gens sont un peu troublés, se disent mais attends, je croyais que c'était une pièce de Mayenburg et on est en France, on est à Paris, voilà, et partout où on va aller, on va changer les trucs.
Ben, vous n'êtes pas sociologue et je vous demande pas de l'être, mais c'est peut-être parce que justement la classe qu'il montre, qu'il décrit, dont il se moque. Il y a un peu une classe qui est la classe mondiale, quoi, un peu. Cette classe de personnes qui sont aisées, qui sont plutôt impliquées dans l'avenir du monde. Et ils peuvent vivre à Berlin, ils peuvent vivre à New York, ils peuvent vivre à Paris.
C'est tout à fait correct.
C'est peut-être d'ailleurs leur truc. C'est qu'ils sont, on dit parfois qu'il y a une opposition entre ceux qui sont dans la mondialisation et ceux qui n'y arrivent pas. C'est un peu ces gens-là, ils sont à l'aise.
Oui, ils sont à l'aise. Après, moi, j'y vois, puisque je disais tout à l'heure que je ne viens pas de Paris, je viens même d'un tout petit village en Anjou. Et je vois la différence de... Je me rappelle d'une expression d'un homme politique qui parlait de la France d'en haut et de la France d'en bas. Disons que c'est plutôt la France d'en haut, c'est plutôt la France des villes, la France qui a accès à la culture, à l'éducation. Et c'est vrai que, bah, vous le disiez très bien, Berlin, Paris, New York, voilà, c'est ces gens-là qui... Ouais. Mais c'est la volonté de Mayenburg, et j'espère que c'est ce qui est visible, des gens de gauche.
Ouais,
c'est-à-dire des gens qui disent, mais nous, on lit Libération, peut-être même on est abonné à l'Humanité, enfin on est vraiment des gens qui ont une conscience du monde, et puis qui sont évidemment confrontés à leurs contradictions.
C'est ça, oui. Alors, c'est ce que, oui. C'est un couple de la classe moyenne supérieure, là, on a l'aisance financière, les bonnes idées, mais aussi toutes leurs contradictions. Et je me disais que pour un acteur, c'était du bonheur de pouvoir jouer sur ça, sur toutes les contradictions du contemporain.
Oui, alors, oui, d'abord, c'est un bonheur parce que, alors surtout pour, enfin, pour moi, parce que je...
Vous avez un rôle particulier, on y viendra après, alors, si vous voulez bien.
Mais alors pour parler...
Ou sinon, on y va direct.
Non, mais pour parler de l'équipe, et donc, en l'occurrence, des collègues, puisque c'est plutôt eux qui sont dans ce rôle-là, je ne veux pas parler à leur place, mais
on va les citer. Alors attention, parce que moi j'ai toujours du mal à prononcer les noms. Il y a Aïda Asgharzadeh,
ouais.
Julien Muller, Cassandre Vitut-Kerual et Auguste Yvon.
De Kerual.
Ah pardon.
Mais c'est pas grave.
Et Auguste Yvon, voilà.
Donc Auguste Yvon est l'enfant, Aïda Asgharzadeh est la femme de ménage, Julien Muller l'homme et Cassandre Vitut-Kerual est la femme, donc le couple. Et moi, je suis l'artiste...
L'artiste avec qui travaille la dame.
Voilà.
Celui par qui le...
Et alors, je pense pour eux que c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a toujours, quand on travaille sur une pièce, je pense que c'est aussi ça qui les a intéressés, eux. On se pose des questions d'abord sur nous. À quel endroit ça nous touche? Quelles sont nos propres contradictions? Je crois qu'on est beaucoup en France à avoir été raciste à un moment. C'est des choses qui se déconstruisent. Moi, bon là, les gens le voient pas. On est à la radio, mais je suis un homme blanc, donc il a aussi et hétérosexuel. Donc je suis dans une catégorie où je suis plutôt jamais victime de quelque discrimination que ce soit. C'est des choses dont il faut prendre conscience, qu'il faut déconstruire. Et c'est vrai que c'est une pièce, en tout cas je l'espère, qui amène à réfléchir à ces sujets-là et qui, moi en tout cas, a continué, s'est inscrite dans la réflexion que je mène depuis plusieurs années.
Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à jouer sur des choses contemporaines par rapport à quand on joue une pièce classique? Je sais, les classiques sont tous éternels, mais est-ce qu'il y a un plaisir particulier de parler du temps d'aujourd'hui pour un acteur?
C'est une bonne question. Mais c'est marrant parce que je fais jamais cette distinction. entre le
parce que peut-être vous êtes sur le plateau et c'est ce qui compte, c'est d'être là maintenant.
Oui, et puis c'est surtout que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est une histoire, mais c'est là aussi où, encore une fois, ma formation allemande m'a beaucoup plus amené sur les situations et sur le jeu que sur le texte. En France, les acteurs, enfin, ceux avec qui je discute et les metteurs en scène me parlent souvent d'un texte. Et c'est vrai que c'est par le texte que l'histoire se raconte, mais moi, ça n'est pas ce que je joue, puisque le texte, vous l'entendez comme moi, enfin, je l'ai lu comme vous, et peut-être vous en avez fait même une meilleure interprétation en lisant que moi. Donc il faut que j'y mette autre chose, et les émotions que je traverse peuvent être de la même intensité, de la même qualité, que ça soit classique ou moderne. Après, c'est vrai que quand c'est moderne, on a l'impression que ça va plus vite, que le spectateur sait de quoi on parle, tout de suite. Il y a peut-être moins de poésie,
mais quelque chose de plus immédiat, plus rapide.
Voilà.
Alors on va revenir à votre rôle. Vous êtes un peu le Deus ex machina de la pièce, ouais. Puisque finalement on ne sait pas si c'est une pièce ou une installation d'art contemporain. Il y a une sorte de mélange entre les deux. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là encore, sans trop peut-être en dévoiler? C'est pour ça que je vous laisse vous débrouiller avec ça.
Alors oui, l'idée c'est. Voilà, c'est pas facile, sans spoiler. Donc sans révéler la fin.
Oui, c'est ça. Alors, moi, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que c'est une pièce qui critique le monde de l'art contemporain, comme on a pu voir un film il y a quelques années à Cannes sur ce sujet, qui s'appelait Carré, je crois. C'est-à-dire qu'il met en cause, finalement, ces gens qui font semblant d'adhérer à une cause dont ils profitent. Hein.
Alors, oui, l'art contemporain, après, je crois que...
Puisque, bon. Alors, quand même, je vais peut-être aussi vous aider, c'est que vous êtes, vous, dans la pièce, un artiste contemporain qui est ami de ce couple de bourgeois qui ont embauché une nouvelle femme de ménage, qui, lui, voit quasiment cette femme de ménage comme une œuvre. En tant que telle, il voit tout le potentiel subversif qu'elle a, malgré elle.
Oui, alors, disons qu'il va profondément mal et qu'il a quand même pas mal d'idées assez pourries. Donc, il enchaîne les performances artistiques... tout au long de la pièce et jusqu'au moment où il va tomber sur cette femme de ménage et se dire ah bah tiens oui on pourrait faire quelque chose avec elle. Du coup maintenant parce que j'ai pensé à plein de trucs en vous écoutant mais j'ai oublié la question.
C'est pas grave, répondez à ce que vous voulez.
Pour moi il y a quelque chose dans ce personnage de l'ordre.
On fait une émission postmoderne donc vous pouvez y aller.
On peut tout déconstruire, voilà. Il y a plus de personnages.
D'ailleurs je vais d'ailleurs être bientôt interviewé par vous.
Voilà, alors non, alors oui, est-ce que c'est une performance ou une pièce? En fait j'espère qu'à la fin la question n'est plus intéressante. En tout cas, je crois que Mayenbourg, quand il écrit ça, évidemment, il le fait par le prisme de l'art contemporain, et je crois que c'est truffé. Alors moi, je vais pas faire comme si j'étais un spécialiste, je connais pas grand-chose à l'art contemporain. J'ai évidemment fait quelques recherches pendant la pièce, mais l'art moderne. Mais c'est truffé de références, et je pense qu'à travers ça, il décrit pas seulement l'art contemporain, mais aussi tout le monde culturel qu'on connaît. Et quand on va à la Charoubuneuse, c'est pas très loin du théâtre de l'Odéon ou de ces ambiances-là qu'on peut connaître, qui sont des très beaux théâtres, qui ont des très belles programmations. Mais où des fois, c'est vrai que quand on sort de ces théâtres en tant que spectateur, on se dit, mais c'est quand même étrange la différence qu'il y a entre ce qu'on vient de voir sur scène, les pensées que ça fait naître en nous. Moi, je me rappelle être allé voir Retour à Reims d'Ostermayer. C'était. C'était sur les Champs-Élysées, parce que c'était quand ils ont fermé je ne sais plus quelle salle.
Ça devait être au Rond-Point.
Non, c'était une salle. Enfin, bref. Et c'est, tout à coup, c'est très étrange d'aller voir ça dans une salle comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair, je me suis un peu perdu dans mes explications.
C'est agréable de jouer un personnage aussi cynique.
Ah voilà.
Parce que vous, quand même, vous êtes très cynique dans la pièce, pas votre personnage.
Alors oui, c'est très agréable, d'autant plus que, en fait, en lisant la pièce, j'ai tout de suite pensé à un acteur que j'admire, qui est Jean-Yann, et j'ai tout de suite pensé à Que la bête meurt, de Claude Chabrol. Et c'est quelque chose que je partage avec ces acteurs qui aiment bien jouer les saloperies. Moi, j'adore jouer les saloperies. Parce que, tout à coup, on dit... plein de choses affreuses qu'on n'a évidemment pas le droit de dire dans la vie. Et puis surtout, la plupart des choses que je dis, j'aurais jamais envie de les dire parce que ce n'est pas des choses que je pense. Mais ça fait du bien d'être un peu le Buhmann, comme on dit en allemand, la personne sur qui on va, enfin la personne qu'on va critiquer quoi. Moi j'aime beaucoup ça.
Comment vous êtes arrivé à cette pièce alors vous? Qui est venu vous chercher? C'est vous qui avez fait savoir? On est. Alors, c'est votre agent?
Non, je connaissais Adrien Popineau, le metteur en scène, et il me parlait de vouloir mettre une pièce en scène, mettre en scène une pièce dans laquelle il aimerait bien que je joue. Il savait pas encore trop quoi. On a lu pas mal de choses. Je lui ai parlé un petit peu de Lucas Piafos, qui est pas très connu en France et que moi j'aime beaucoup. Enfin, on a regardé pas mal les auteurs allemands, Roland Schimmel, Pfennig, et donc Marius von Mayenburg, que lui connaît très très bien. Et tout à coup, il me dit « Ah, Lisa, pièce en plastique, tu connais ?» J'ai fait « Non, celle-là, je la connais pas. » Et j'ai lu le truc et je lui ai dit « Écoute, moi, ça me paraît être une bonne idée. » Et puis après, il a fait son j'aime pas le mot, mais son casting. Enfin, il a monté son équipe.
Il commençait de travailler avec lui parce que, alors, j'ai bien sûr pas assisté aux répétitions, je sais pas du tout. Mais à vous regarder, vous et les autres, on a l'impression qu'il vous a donné un cadre pour jouer plutôt que fixer des limites, imposer une vision. On n'a pas l'impression qu'il est très directif. Je me trompe?
Ah non, vous vous trompez pas. Vous êtes un spectateur très attentif. Non, non, c'est ça. C'est-à-dire que il aime pas arriver avec un concept prédéfini. Et donc, il a des idées, il a des envies, il a des intuitions, et il a envie de se laisser surprendre. Alors, ça peut être une méthode de répétition déroutante pour certains acteurs ou certaines actrices, parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'être beaucoup, beaucoup en proposition pour qu'après, lui fasse le tri ou réagisse à ça en proposant de nouvelles choses. C'est plutôt comme ça qu'il a travaillé. Et puis, une fois qu'il a fait ce tri, il a eu le désir aussi de recasser certaines choses pour pas que ça s'installe. Parce qu'il n'avait de cesse de dire, mais vous savez, dès que vous vous installez, le truc est mort, quoi. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait l'impression d'une parole directe, de quelque chose qui émane comme ça, même si, et ça peut paraître contradictoire à l'auditeur qui n'aura pas vu la pièce ou à l'auditrice, même si il y a des éléments de boulevard qui sont là à dessein.
Vous aimez danser?
Oui, pourquoi?
C'est parce qu'on va écouter de la musique.
Ah bah oui, c'est bête.
Oh, and luck stay with you, remain all your days. Oh, and luck stay by you through every passing phase. Oh, and luck, be comfort, make it real for you. Oh, and luck, be vital, always take that you. You were always welcome here with me. You were always welcome here. The ordinary. Oh, and luck, be gentle.
Oh, yeah.
No need to compete.
Oh, and luck, be patient with everyone you meet.
You were always welcome here with me. Celebrate the ordinary.
You're
C'était Preacher Than Low Luck featuring Etienne Dao.
La relève sur Radio Campus Paris.
Alors, on est toujours avec Charles Brouillon, on parle toujours de pièces en plastique actuellement au théâtre de Belleville à Paris, dans le 10e arrondissement. J'espère pas avoir dit de bêtises. Oui, c'est côté 10e. C'est ce côté-là, c'est le 10e arrondissement. Métro Goncourt, si vous voulez y aller, il y a des métros. Ça remarche.
Métro Belleville aussi, non ?
Ouais, Belleville ou Goncourt. Ouais, c'est entre les deux. Ouais, et donc, on est
bien
toujours avec vous. Ouais, très bien lancé. Je savais pas que c'était un slow, mais c'était pas mal. On déconstruit. Toujours, je sais bien que vous n'êtes pas sociologue, mais quand même, je vous pose une question. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue, c'est que j'ai l'impression qu'actuellement, dans la création, il y a un retour de la figure du domestique. On a eu le roman de Léla Simani, on a celui de Guillaume Lavenant, notre chouchou, parce qu'on l'a reçu ici, qui s'appelle Protocole Gouvernant, que vous n'avez peut-être pas lu, mais c'est pas grave.
Non, mais il faudra me donner la référence.
Il y a eu Parasite, la Palme d'Or à Cannes. Comment vous expliquez que cette situation-là se remet à intéresser autant les auteurs? Qu'est-ce qui... Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien voir la
vôtre.
Alors,
alors effectivement, je ne suis pas sociologue. Moi, ce que je vois, c'est que... je vais dire des banalités, mais on arrive probablement au bout de quelque chose. Et nous, les petits Européens blancs, on se regardait beaucoup le nombril et on commence à se poser des questions. Et cette figure du domestique, de la femme de ménage, dans un autre temps qu'on aurait peut-être appelé le prolétaire ou de la personne dominée, bah, tout à coup elle redevient importante parce qu'on commence à réfléchir à ces dominations qu'on fait subir, que ce soit aux minorités ethniques, que ce soit aux femmes, que ce soit...
Oui, c'est ça, c'est un peu le retour de la lutte des classes qu'on avait un peu oublié.
Oui.
Ouais, c'est un peu ça, j'ai l'impression que c'est la lutte des classes dans la famille, dans le foyer, là elle est presque chimiquement pure parce que comme à la maison, quoi.
Et c'est-à-dire que moi je suis très content parce que justement c'était pas mieux avant. Je suis très content parce que j'ai l'impression qu'on est dans une époque où tout est en train de voler en éclats et j'espère pour ne pas se reconstituer comme c'était. Et on entend des choses et on voit des choses qui ne se sont jamais faites. Enfin, je veux dire,
c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la pièce. Tout vole en éclats.
Voilà, là, Rugia, il est en garde à vue. Enfin, il en est sorti, je crois, aujourd'hui ou il y a quelques jours. Voilà. Et il y a l'affaire du prêtre, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était couvert par Barbarin. Enfin, des choses dont on parlait peut-être pas il y a 10 ans, qu'on savait. Il y a eu Matzneff, il y a eu toutes ces affaires-là.
C'est d'ailleurs pour ça que vous le citez tous les soirs. Enfin, que vous citez. Je ne sais pas trop non plus dire comment,
ouais.
Mais il y a des petits clins d'œil à l'actualité, fait beaucoup rire, mais en même temps, c'est marrant que vous en parliez, c'est parce que vous voulez vous raccrocher à l'actualité là encore ?
Non, ouais, c'était qu'en fait, j'avais envie de m'amuser, et en répète, j'ai commencé à m'écrire des hashtags sur le corps, et en fait, des trucs que je lisais dans la presse, ou que j'entendais à la radio, je me disais, tiens, on va... Et puis évidemment, pour provoquer, il y a un côté, mais c'est marrant, tout à l'heure, vous disiez, cette pièce pourrait être française, il y a un côté, et qui peut déranger à ce titre-là, je vais le dire, peut-être que mes collègues ne seront pas du tout d'accord, mais moi je trouve qu'il y a un côté Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'on tape sur tout le monde et sur nous en premier. J'espère qu'on ne donne pas du tout l'impression de se trouver bien, parce qu'on est vraiment des êtres misérables, je trouve, sur scène.
Ouais, c'est un peu des... Moi, j'avais noté que c'était un peu des salauds, quoi, dans le sens de ça. Enfin, sens, ça fait toujours chic de dire salaud sans sartrien du rêve. Du coup, j'ai été vérifier ce que c'était un salaud sartrien.
Ah, alors qu'est-ce que c'est?
Et d'ailleurs, il faut que je m'en rappelle. C'est quelqu'un qui croit que son existence est essentielle, alors qu'au fond, il ne sert à rien comme tout le monde. Enfin, c'est ce que j'ai compris, moi. Je ne suis pas un grand professeur de philosophie. Mais eux, ils donnent un peu l'impression d'être bons et justes, alors qu'au fond, ils mènent une petite vie mesquine comme tout le monde. Il se donne des grands airs, mais derrière, quand on gratte...
Oui, et en fait, peut-être que c'est ça. Enfin, j'espère que c'est comme ça que c'est reçu par le spectateur et la spectatrice. Cette femme de ménage, elle n'a pas de prétention. Alors, c'est un rôle extrêmement compliqué. Et
en plus, elle parle peu.
Elle parle très peu, voilà. Et Aïda Asgardadeh fait ça très bien. Mais c'est la seule qui parvient à être simple et à être dans la réalité de la vie.
Et dans le temps, oui.
Et dans le temps. Et c'est ça qui fascine à un moment donné, je pense, l'artiste. C'est de se dire, enfin, quelqu'un de vrai qui, moi, me touche beaucoup. Parce que, bon, bref, pour des raisons personnelles, mais ça me rappelle beaucoup de choses de mon histoire familiale. Ces gens qui sont tout simples, qui ne prétendent pas savoir les choses, parfois qui les savent même, mais sans en parler. Je pense que c'est aussi ça.
Il y a tout un moment fabuleux dans le spectacle, c'est le moment où la femme, la mère, donne une vieille robe à la domestique et Ça c'est génial. Mais je vois juste le temps qui tourne et moi qui fais l'école buissonnière. Vous étiez, on va parler un peu de vous quand même. Vous êtes parti en Allemagne. Vous êtes franco-allemand de culture ou vous avez juste eu envie, comme beaucoup de jeunes à 18 ans, de partir à voir à Berlin comment c'était?
Alors non, c'était pas à Berlin.
Oui, c'était à Bochum, je crois.
Ouais, non, c'était même encore ailleurs.
Ah, c'est encore ailleurs.
Non, ça vient mais c'est une longue histoire, pas très intéressante.
Non, vous n'êtes pas franco-allemand donc.
Maintenant, si je le suis, si on veut, ça vient. C'est une longue histoire d'amour avec l'allemand et l'Allemagne, puisque j'ai fait aussi des études d'allemand avant de faire des études de théâtre. Et puis ça m'a amené en Allemagne et ça m'a amené à faire mon école nationale là-bas, oui.
Je voulais juste savoir, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, c'est difficile de travailler en France quand on a été formé en Allemagne, justement, vous disiez que la formation n'était pas la même. Est-ce qu'il y a des metteurs en scène avec qui vous auriez du mal, parce que justement vous n'avez pas ce travail sur le texte comme obsession?
Alors non, ça c'est plus quelque chose que les metteuses en scène et les metteurs en scène peuvent projeter sur moi.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah, mais tu viens en Allemagne ». Alors en plus, c'est très drôle, parce qu'à chaque fois que je dis l'Allemagne, on me dit « Ah oui, le théâtre allemand, Ostermayer ». Et moi, j'aime beaucoup Thomas Ostermayer, j'aime beaucoup son travail. Mais enfin, ça me paraît tellement réducteur. Pour la petite histoire, qu'en Allemagne, il y a plus de gens qui vont au théâtre que dans les stades de foot. Et les stades de foot allemands sont vraiment pleins. Je crois que c'est 20 millions de spectateurs par an. Donc je pense que c'est beaucoup plus qu'en France.
Ah oui, donc le théâtre en Allemagne est quelque chose de très dynamique.
Ah, je crois qu'en Europe, l'Allemagne est comme l'Angleterre, c'est ces pays où le théâtre a une place complètement différente. Et d'ailleurs, c'est ce qui, moi, me stupéfait quand je rentre en France et qu'on parle d'exception culturelle française. Peut-être qu'elle existe, mais faudrait arrêter d'être cocorico et regarder ce qu'il y a autour de nous, parce que vraiment, en Allemagne, c'est beaucoup, je pense même, j'aimerais bien connaître les budgets, je pense même que les Allemands dépensent beaucoup plus d'argent pour leur théâtre que les Français.
Il y a une chose qui est sûre, par exemple, sur la pratique de la musique, on n'a rien à apprendre aux Allemands. Ça, c'est quelque chose.
Donc non, ça m'empêche pas de travailler en France. C'est juste que je vois qu'on n'est pas de la même école, on n'a pas la même approche du travail avec les comédiens et comédiennes françaises. Mais en même temps, c'est pas vrai parce que chacun a sa petite méthode. Et puis moi, j'ai commencé à apprendre en France, donc je me sens pas étranger.
Vous pourriez la jouer cette pièce en allemand?
Ah oui, sans problème.
Vous pouvez demain aller la jouer en Allemagne avec.
Bah moi, quand je suis sorti de l'école, en fait, j'ai commencé par des pièces de Shakespeare en Allemagne, donc en allemand. Donc oui, c'était pas.
Être ou ne pas être, alors ça donne.
Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
Ah super, ça c'est classe. Dans la pièce,
il faudrait connaître la suite. C'est
pas une interro surprise en même temps. Dans la pièce dont on parle aujourd'hui, j'aurais juste venir sur ça, sur le travail d'acteur. Donc, mm-hmm. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que la formation allemande en tout cas était plus sur le corps, le mouvement. Vous êtes à la fois, donc vous êtes sur scène, mais vous êtes en même temps filmé, projeté, les images sont projetées en même temps. Est-ce que c'est un travail particulier pour l'acteur, ça? De penser qu'il y a une caméra et qu'il doit être...
Non, non, ouais. Alors, en fait, je pense que la difficulté, il faudrait demander à Auguste Yvon, qui est pas là, mais c'est que c'est lui qui fait le cadre, c'est lui qui fait l'image. Parce que moi, bon, du coin de l'œil, je vois bien si je suis à peu près dans l'image, je me décale un peu, j'essaye de placer... Bon, là, je casse un peu la magie du truc. Mais j'essaye évidemment de placer mon verre de vin de telle façon qu'on ait l'évocation du sang du Christ... Et tout ça, j'ai aussi eu un passé d'enfant de cœur. Voilà, vous savez tout. Et non, mais ça, moi, au contraire, ça me fait marrer. Non, je m'en fiche, en fait.
Vous allez en tourner maintenant?
Ben, j'espère. On va aller d'abord en tourner en Normandie, à Dieppe, à Bernay, à Rouen. Normalement, ça se décide dans les prochains jours en Avignon. Et puis après, on verra. J'espère qu'on va avoir une longue tournée. Ouais.
Parce que j'imagine, sur une pièce comme ça, on l'a travaillée longtemps, on a envie de la défendre un peu.
On a envie de la défendre. On sait que ça peut être... je ne sais pas si ça se dit en français, polarisé.
Ça peut être court, quoi.
Ça peut, ouais, enfin, ça peut créer, non, mais ça peut créer des tensions parce qu'il y a des gens qui peut-être seront pas d'accord avec ce qu'on défend, qui seront choqués, qui trouveront peut-être que la femme de ménage ou la femme en général est mal représentée ou qu'on dit des choses que vraiment on n'a pas le droit de dire sur scène. Moi, je trouve pas quand même que ça soit à ce point-là, mais.
Ça a l'air de vous traumatiser tant que ça.
Ah non, pas du tout. Non.
Vous êtes prêt à affronter le public?
Oui.
Bon, bah super, merci beaucoup d'être venu, Charles Moyen.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter La Relève, c'était déjà le 11e épisode de la saison 4. L'émission était réalisée par Antonin, dont c'était le retour. Bonne année Antonin, merci d'être là. Elle a été présentée et préparée par Christophe. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, ou si vous êtes trop impatient, sur le site de Radio Campus Paris, rubrique La Relève, où vous retrouverez tous les podcasts. Merci. Rendez-vous ce soir à 19h pour la matinale de Radio Campus Paris. D'ici là, bonne écoute du programme musical.